d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 20 septembre 2018. Au Tchad, ouverture du procès de Babalade, ancien chef de guerre en Centrafrique. 9 villageois tués au Nigeria dans une attaque attribuée à Boko Haram près de Maïdougouri. Déploiement des forces de sécurité à Kampala à l'arrivée de Bobby Wine, ramené chez lui par la police. Aux États-Unis, plusieurs morts dans une nouvelle fusillade dans le Maryland. Collège d'entraîneurs à la tête des Panthères du Gabon en football et les sports, ce sera juste après le journal et la Minute Écho. Au Tchad, le procès de l'ex-chef rebelle Abdelkader Babalade s'est déroulé ce matin au palais de justice de N'Djamena. Arrêté en Centrafrique en 2014, il est accusé de vol à main armée, détention illégale d'armes, assassinat, rébellion et association de malfaiteurs. Il était absent à l'audience pour raison de santé. Andra Kodmajingar, notre correspondant, nous en dit plus.
Mohamed Abdelkerim alias Babalade a passé plus de 4 ans derrière les barreaux sans être jugé. Au cours de cette audience, le parquet général a requis à la chambre d'accusation de renvoyer le dossier à la cour criminelle. Mais selon les avocats de la défense, les faits reprochés à leur client datent de 2008 à 2012, faits qui sont d'ailleurs couverts par l'accord signé entre le pouvoir de N'Djamena et Babalade en 2012, qui lui a permis de regagner la légalité avec ses éléments. Nommé conseiller chargé de mission à la primature, puis préfet de la Grande Sido au sud du Tchad, c'est à son dernier poste qu'il a eu des ennuis avec le pouvoir et a fui avec un de ses rapprochés en territoire centrafricain. Pour l'avocat de Babalade, maître Alain Kagombe, que son client soit couvert par l'ordonnance 19 du 31 mai 2018 signée par Idriss Déby Itno portant amnistie des atteintes à l'intégrité de l'État. Que justice soit rendue à l'ex-rebelle incarcéré injustement pour qu'il aille se faire soigner compte tenu de son état de santé précaire, a indiqué à VOA Afrique l'avocat du prévenu. Maître Alain Kagombe a déclaré aux membres de la chambre d'accusation que si son client est toujours en prison, c'est parce qu'il a déclaré lors de son arrestation à Bangui que la Séléka entretiendrait d'excellents rapports avec N'Djamena. L'affaire a été renvoyée au 4 octobre prochain pour la délibération. André Kodmajingar, N'Djamena, VOA Afrique.
Une enquête a été ouverte en RDC après la découverte à Kinshasa de 4 corps de jeunes, a déclaré la police, alors que des témoins mettent en cause une opération anti-délinquance des forces de l'ordre. 3 corps ont été trouvés dimanche sur un terrain de basketball de Kalamu. Un 4e a été découvert dans le quartier voisin de Yolo. Au Nigeria, 9 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans des attaques djihadistes sur 2 villages du nord-est. Plus de détails avec Nani Talani.
Des combattants venus en camionnette ont attaqué hier soir les localités de Kalari Abidje et Amaroua à une 20aine de kilomètres de Maïdougouri. Selon Babakoura Kolo, membre d'une milice d'autodéfense, les attaques ont eu lieu à la tombée de la nuit. Il pleuvait et les gens étaient à l'intérieur. Les villageois effrayés se sont précipités dehors où ils ont été abattus. Les 2 villages ont été complètement brûlés par les assaillants. Ces hommes armés étaient manifestement des combattants de Boko Haram, d'après Ibrahim Limane, responsable d'une milice soutenant l'armée dans sa lutte contre Boko Haram. Les participants d'Aboubakar Shekau s'en prennent souvent aux civils, utilisant des kamikazes et des raids. Une autre faction djihadiste qui se dit affiliée au groupe État islamiste cible surtout des objectifs militaires ou gouvernementaux.
Un juge de Milan en Italie a prononcé 2 condamnations pour corruption au Nigeria impliquant les compagnies pétrolières Shell et Eni. Le Nigérian Emeka Obi et l'Italien Gianluca Di Nardo ont été condamnés pour corruption internationale à 4 ans de réclusion et à la confiscation de 98 millions de dollars pour le premier et de 21 millions de francs suisses pour le second. Le gouvernement libérien interdit le voyage de 15 personnes, dont des responsables de la Banque centrale, y compris un fils de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, à la suite de l'ouverture d'une enquête sur l'entrée de près de 100 millions de dollars américains destinés à la Banque centrale qui ont disparu. Pour cette enquête, le Libéria a sollicité l'aide du FBI, du Trésor américain et du FMI. Des centaines de collégiens ont manifesté ce jeudi à Abidjan contre le projet de construction du quatrième pont qui implique la destruction de leur établissement qui accueille 2000 pensionnaires. Ce pont, dont les travaux ont démarré en juillet, va relier le quartier de Yopougon à celui du plateau. 30 milliards de francs CFA sont destinés à indemniser ou reloger les populations de ces zones d'habitation. Revenant des États-Unis, l'ex-chanteur et député ougandais Bobi Wine a été escorté par des policiers dès son arrivée dans son pays. Les forces de sécurité étaient déployées à Kampala. Lors d'une conférence de presse, il a promis de poursuivre son combat. Abdourahman Dia.
Je suis de retour dans le pays que j'aime et je n'arrête pas le combat. Je suis prêt à en payer le prix, a déclaré le député d'opposition, plus connu sous le nom d'artiste Bobi Wine, Robert Kyagulanyi. 36 ans a indiqué que l'Ouganda était prêt pour le changement et que ce n'est pas le moment d'abandonner cette aspiration, ajoutant que le président Museveni était en mode panique. Dès sa sortie de l'avion, des policiers l'ont amené et c'est dans un véhicule blindé que le député a été escorté jusqu'à son domicile où l'attendaient de nombreux partisans. Les forces de sécurité étaient déployées en nombre ce jeudi dans les rues de Kampala et fait couper toute circulation sur la voie rapide menant à l'aéroport international d'Entebbe. Le député s'était rendu aux États-Unis fin août pour y recevoir des soins après avoir, selon lui, été battu et torturé en détention provisoire par la police. Mais les autorités ont catégoriquement démenti.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées ce jeudi lors d'une fusillade dans le Maryland, a annoncé la police locale. Sur la base de ce que nous savons, il s'agissait d'un suspect seul. Il est en détention et dans un état critique à l'hôpital, a dit le shérif Jeffrey Geller lors d'une conférence de presse. Selon les médias américains, 3 personnes sont mortes. La police n'a pas voulu confirmer dans l'immédiat que l'auteur des coups de feu était une femme, comme l'ont indiqué et des médias. Donald Trump a assuré vouloir entendre le témoignage de la femme qui accuse d'agression sexuelle Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême. Mais il a aussi souligné qu'il serait regrettable qu'elle ne s'exprime pas comme prévu lundi devant le Sénat. John Linden nous en dit plus.
Le feuilleton à rebondissement de la confirmation du juge conservateur Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis connaît un nouvel épisode. Christine Ford, universitaire de 51 ans, qui affirme avoir été agressée sexuellement par ce dernier lorsqu'elle était au lycée. Elle a changé de position et demande une enquête de la police fédérale avant d'être auditionnée par le Sénat. Le locataire de la Maison-Blanche, qui espère, comme les élus républicains du Congrès, boucler ce dossier avant les élections parlementaires du 6 novembre, estime que des investigations du FBI ne sont pas nécessaires. J'aimerais vraiment voir ce qu'elle a à dire. Si elle se présente, ce serait formidable. Si elle ne se présente pas, ce serait regrettable, a déclaré Donald Trump mercredi dans les jardins de la Maison-Blanche. L'enjeu est de taille. La nomination à vie du magistrat conservateur placerait en effet les juges progressistes ou modérés en minorité pour de longues années à la Cour suprême.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que son pays continuerait à se défendre contre l'Iran 3 jours après des événements qui ont mis à l'épreuve la coordination entre Israéliens et Russes en Syrie. Lundi soir, une opération israélienne a mal tourné quand les batteries antiaériennes syriennes tirant sur des appareils israéliens ont abattu par erreur un avion militaire russe tuant les 15 membres d'équipage. Le président du Conseil européen Donald Tusk a estimé que la proposition de la première ministre britannique Theresa May sur la relation économique future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit ne fonctionnera pas. Le cadre de coopération économique tel qu'il est proposé ne fonctionnera pas, ne serait-ce que parce qu'il sapera les libertés intérieures de l'Union, a-t-il affirmé à l'issue du sommet européen à Salzbourg en août. Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, a dit que les propositions de Londres en l'état actuel ne sont pas acceptables. De nouvelles propositions sont attendues en octobre. Le président américain Donald Trump a exhorté l'OPEP à faire baisser maintenant les prix du pétrole brut. Nous protégeons les pays du Moyen-Orient. Ils ne seraient pas en sécurité pour très longtemps sans nous. Et pourtant, ils continuent à pousser pour des prix du pétrole toujours plus haut, a-t-il lancé sur Twitter, concluant que le monopole OPEP devait baisser ses prix maintenant. Et la mission militaire italienne au Niger visant à aider les autorités locales à contrôler les flux migratoires va finalement débuter 8 mois après avoir été votée par le Parlement, a annoncé la ministre de la Défense italienne Elisabetta Trenta. L'objectif est de lutter ensemble contre la traite d'êtres humains et le trafic des migrants qui traversent le pays et se dirigent vers la Libye, a-t-elle déclaré. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Nigeria a suspendu la mise en route d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. Il y a 2 mois, le ministre de l'Aviation, Adi Sirika, avait annoncé la création d'une nouvelle compagnie aérienne, Nigeria Air, d'ici la fin de l'année. Le pays est sans compagnies aériennes nationales depuis la fermeture de Nigeria Airways en 2003, compagnie criblée de dettes qui a fini par succomber aux difficultés financières. Au Niger, le gouvernement a adopté un projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 2050 milliards de francs CFA et représente une hausse de 78,79 milliards de francs CFA. Ce budget servira à mettre en œuvre le plan d'action de développement économique et social et le programme économique et financier. Le FMI projette la croissance du PIB du Niger à 5,2% en 2018, en légère hausse par rapport aux 4,9% enregistrés en 2017. Et pour finir, le fondateur du géant chinois du commerce électronique, Alibaba, a renoncé à son ambitieuse promesse de créer 1 million d'emplois aux États-Unis. Jack Ma a indiqué que cet engagement est désormais impossible à tenir pour cause de la guerre commerciale. L'homme le plus riche de Chine avait pris cet engagement en janvier 2017 aux côtés de Donald Trump à New York. Cette promesse se fondait sur 2 conditions préalables, celle d'une coopération amicale entre la Chine et les États-Unis et celle d'un commerce bilatéral rational et objectif.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le père d'Aubameyang et Daniel Cousin ont été nommés à la tête des Panthères au Gabon.
Pierre-François Aubameyang, père de la star d'Arsenal Pierre-Emerick et Daniel Cousin, anciens internationaux, ont pris les rênes de la sélection gabonaise. Ces anciens capitaines des Panthères seront aidés par François Amegassé, lui aussi ancien capitaine de l'équipe nationale nommé manager général. Aubameyang et Cousin succèdent ainsi à l'Espagnol José Antonio Camacho, limogé fin septembre après une défaite du Gabon en amical contre la Zambie 0-1. Camacho, qui avait été appelé fin 2016, totalise 2 victoires contre 7 défaites et 8 nuls en 17 matchs.
Baki Kone est le nouveau président du club champion de Côte d'Ivoire.
L'ancien international ivoirien a été nommé président de la section football de la SEC Mimosa, d'après le communiqué publié sur le site du club. Baki Kone, 37 ans, est issu du centre de formation des Mimos dans les années 1990. Il a évolué avec les jaunes et noirs de 1999 à 2002, avant d'entreprendre une carrière professionnelle au Qatar, puis en France, notamment à Marseille, club avec lequel il a été champion de France en 2010. Avec les éléphants, Baki Kone a été finaliste de la CAN 2006 et a participé la même année en Allemagne au premier mondial de la Côte d'Ivoire.
Amadou Melvin Pinnick a été réélu président de la Fédération nigérienne de football.
Le président sortant a été réélu pour 4 ans avec 34 voix sur les 44 lors du congrès. Il a devancé Alhaji Aminu Maigari et Taiwo Ogunjobi. Amadou Melvin Pinnick est devenu le premier président de la Fédération nigérienne de football à être réélu après 38 ans. Il est à la tête de la fédération depuis 2014.
Et pour terminer, la suspension de l'agence russe antidopage a été levée.
L'Agence mondiale antidopage a levé la sanction de la RUSADA, frappée de sanctions pour le système de dopage institutionnel ayant eu cours en Russie entre 2011 et 2015. Le comité exécutif a décidé d'une date butoir non précisée, d'ici laquelle la RUSADA devra donner accès à l'AMA à ses échantillons et ses données provenant de son laboratoire de Moscou. Si cette date n'est pas respectée, le comité exécutif a pris un engagement clair à suspendre de nouveau l'agence.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. On commence par une petite escale en République du Congo. Depuis sa libération il y a quelques jours, l'opposant Paulin Makaya ne montre aucun signe de faiblesse politique. Il continue en effet de donner son point de vue sur la gestion du pays, appelant l'opposition à l'unité pour une participation conséquente à la présidentielle de 2021. Notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin, l'a rencontré.
Les quelques 1100 jours passés en prison n'ont pas altéré chez Paulin Makaya la bravoure et la vigueur du combat politique. Il avait été condamné pour manifestation illégale. Appelant les acteurs politiques à travailler pour la jeunesse congolaise, l'opposant aborde tous les sujets avec les militants qui lui rendent visite tous les jours.
Quand je sors comme ça, j'ai aussi pensé directement à ma mère qui a 74 ans, qui est fatiguée. J'ai pensé aussi à mes amis qui sont restés en prison, notamment le général Mokoko, Jean Gwabi, Jacques Manangazela, Limbongo et tant d'autres. Ce que j'avais fait, c'était une manifestation d'une opinion qui était majoritaire au niveau national. Malheureusement, en manifestant, on m'arrête. J'ai été embastillé, j'ai été humilié, menotté. Mais ça, c'est pour le peuple, pour un Congo uni. Vous verrez, nous avons la dynamique de demander à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir d'abandonner la culture de la peur, d'abandonner la politique de la violence. Je vous dis que 2021, on verra avec certains opposants. Donc, on ne peut pas abandonner la politique. Vous savez que je suis né d'Adam, moi. J'ai pour père spirituel comme mentor Bernard Colella. 1100 jours, c'est pas facile, hein.
Destin Sikula, le secrétaire général de UNI pour le Congo, le parti de Makaya, salue sa libération et annonce en même temps la reprise des activités de leur formation politique.
Aujourd'hui, retrouver le président en face de nous, souriant, garder le même cadre, la même ferveur politique. Et là, je ne fais que venir à 7 heures pour rester à côté du président parce qu'on ne fait que recevoir.
Plusieurs organisations de la société civile continuent d'appeler à la libération des acteurs de l'opposition en détention. Joe Washington Ebina parle d'une première étape de cette victoire.
Ce leader d'opinion était en prison pendant près de 3 ans, ce qui est incompréhensible, inacceptable. Et donc il était considéré pour nous comme étant un prisonnier politique, mais c'est pour nous l'ouverture d'un apaisement dans la mesure où nous pensons que cela va aussi entraîner la libération d'autres prisonniers actuels, dont le général Mokoko. Et donc nous considérons que c'est un pas et nous souhaitons simplement que nous allons vers un apaisement.
Au Parti congolais du travail, le parti présidentiel, la libération de Paulin Makaya n'est que l'aboutissement d'un processus judiciaire. Armel Sibodé, gars de la jeunesse du PCT, recuse en même temps la notion de prisonnier politique à Paulin Makaya.
À notre niveau, nous ne pouvons pas dire que c'était un prisonnier politique, mais la justice a fait son travail. Nous, en tant que parti politique, nous ne pouvons pas nous mêler dans les affaires judiciaires. Il a purgé sa peine, il est sorti. Je crois que c'est la justice qui a travaillé. Et pour nous, le parti congolais du travail, la jeunesse du PCT, nous n'avons pas une position politique à donner. Sinon, c'est de dire que la justice a travaillé.
L'opposant, qui a été emprisonné après son retour de 17 ans d'exil, savoure désormais sa liberté dans son petit fief de Madibou, au quartier sud de la capitale congolaise. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Je vous donne rendez-vous à 18h, temps universel, sur VOA Afrique, dans votre émission À votre avis. Aujourd'hui, on va parler de la problématique du foncier en Afrique. Le président libérien George Weah vient de promulguer une loi sur la propriété des terres. Selon la nouvelle législation, seuls 10% des terres d'une communauté pourront être déclarées appartenir au domaine public et donc être l'objet d'une concession à des privés. Pensez-vous que cela va régler la question de l'accès aux terres pour les citoyens? Quelle est la situation dans votre pays? Laissez vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Le gouvernement libérien a interdit de voyage 15 personnes, dont des responsables de la Banque centrale, y compris un fils de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, ainsi que l'homme d'affaires libanais George Abijaoudi. Une enquête est ouverte sur l'entrée de sacs et conteneurs remplis de billets libériens pour 97 millions de dollars américains destinés à la Banque centrale, dont la trace a été perdue. Idriss Fall a joint Joël Jacob, journaliste à la retraite à Monrovia, pour en savoir plus.
Il s'agit de 97 millions de dollars américains, a été déclaré officiellement par le ministre de l'Information, Eugene Nangbe, que ça a été découvert au port autonome de Monrovia et l'autre quantité a été découverte à l'aéroport international Roberts. Qui doit prendre cette responsabilité? Ce sont les mêmes officiels du gouvernement libérien qui font de ce pays un jeu de dames. Donc, c'est le fardeau sur les épaules des officiels du gouvernement libérien.
En fait, l'argent n'a pas disparu, on a découvert de l'argent. Donc.
Oui, découvert en quelque sorte. Si c'était bien pour le bien-être pour le Libéria, ce serait en banque. L'inquiétude, c'est que si l'argent est au port, le port autonome, c'est une entité semi-gouvernementale. Si elle était venue dans le compte du gouvernement libérien, ce serait alors à la Banque centrale. Si ça a été découvert par les agents du port, c'est une disparition.
Mais cet argent, il venait d'où?
C'est encore inconnu, puisque l'enquête a commencé selon le ministre de l'Information, Len Eugene Nangbe. On ne sait pas d'où sont provenus cette coquette somme d'argent.
Et jusque-là, il n'y a pas d'arrestation?
Selon les premiers éléments de l'enquête, Idriss, des liasses de nouveaux billets imprimés à l'étranger sont arrivés au Libéria entre novembre 2017, pendant les derniers mois de la présidence de Johnson Sirleaf, et août 2018, après donc juste l'investiture du président George Weah. Le ministre a aussi ajouté hier que quelques arrêts ont lieu. Et il a confirmé que la police a mis main sur quelques officiers, mais les noms restent encore inconnus. Mais la personne qui est un peu largement vue, c'est le fils de l'ancien président Ellen Johnson Sirleaf, qui a été à la police hier. On ne sait pas jusqu'à présent s'il a été demandé ou alors arrêté.
L'affaire doit faire les sous-gras partout à Monrovia et dans le pays, non?
Le pays est blessé, le cœur de tout Libérien est complètement touché. Nous sommes dans le moment de pansement d'après de longues années de guerre. Le temps est dur, la vie est chère et les Libériens le savent bien que c'est une nouvelle reprise de vie. Cette nouvelle, vraiment, ça verse l'encre dans les journaux, au marché, on n'entend plus rien. On ne fait que parler de ces deux conteneurs d'argent découverts au port autonome de Monrovia.
L'ancien journaliste Joël Jacobs était joint à Monrovia, au Libéria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Une nouvelle trouvaille pour dynamiser le cinéma africain. Il s'agit de Waga Film Lab. Entendez par là un laboratoire pour enseigner les métiers du cinéma aux jeunes du continent. La troisième édition de cet événement s'est ouverte aujourd'hui à Ouagadougou, capitale du cinéma africain. Voici un reportage du correspondant de VOA Afrique, Lamine Traoré.
La plateforme Waga Film Lab vise à renforcer la compétitivité des cinéastes africains sur le plan mondial avec des projets de films pouvant aller à la rencontre du public local mais aussi international. Pour l'édition 2018, plusieurs ateliers de formation au métier du cinéma sont ouverts. Ousmane Boundaouné est l'administrateur de Waga Film Lab.
Il y a déjà des ateliers de formation dans le domaine du scénario, dans le domaine de la production, dans le domaine du pitch et dans le domaine aussi du documentaire pour les professionnels, donc les 25 professionnels qui ont été sélectionnés, pendant une semaine, ils auront droit donc à des formations très techniques sur leur projet, mais ils auront aussi droit à ce que j'ai appelé, ce que nous appelons dans notre jargon, le one-to-one.
25 porteurs de projets venus de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Mali, de la Gambie, du Nigeria et du Burkina Faso, ainsi que plus d'une vingtaine d'experts d'Afrique prennent part à la présente édition. Ousmane Samasekou, cinéaste malien, producteur et réalisateur de films, est à sa deuxième participation.
Moi, je suis très heureux d'être là. Ouagadougou, ça met ensemble la jeunesse cinématographique de l'Afrique subsaharienne, mais aussi francophone. Et non seulement ça nous permet de créer et de développer nos projets, mais de mettre en place un genre de réseautage qui nous permet de bosser sur le projet des uns et des autres.
À l'intérieur de Ouaga Film Lab se trouve Ouaga Producer Lab, qui vise à primer les meilleurs porteurs de projets cinématographiques. Mamouna Tani Kema, réalisatrice et productrice burkinabé, est l'une des lauréates de l'édition dernière en 2017.
Pendant au moins 2 semaines, nous avons suivi des formations en production, la création d'une entreprise audiovisuelle, le droit dans le domaine de l'image. Cela nous a permis d'échanger avec des mentors, des experts dans le domaine et d'apprendre aussi à présenter nos projets dans des séances de pitch. Cela m'a permis en tout cas d'être l'une des lauréates au niveau du Producer Lab. Moi, j'ai eu l'opportunité en fait à travers ce prix de faire un stage de 7 semaines sur la production de films Weldy. Et pendant ces 7 semaines, j'ai eu l'opportunité d'intégrer en fait l'équipe de production.
Ouaga Film Lab permet à des lauréats de prendre part à d'autres grands laboratoires, comme au Festival de Cannes avec le prix La Fabrique des Cinémas du Monde. La 3e édition qui s'est ouverte ce jeudi se poursuit jusqu'au 29 septembre prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La mission de l'Union africaine en Somalie effectue des opérations chirurgicales correctives gratuites à Kismayo pour les personnes souffrant de difformités au niveau de la bouche et du palais. Le coût élevé du traitement et le manque de spécialistes dans le pays empêche la plupart des malades d'avoir accès aux soins dont ils ont réellement besoin. Arzouma Compaoré nous en dit plus.
Redonner le sourire aux Somaliens souffrant de difformités des lèvres et du palais. Voilà l'objectif que se sont donné les médecins de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Et c'est à l'hôpital général de Kismayo, dans le sud du pays, que le camp médical de 2 semaines, censé toucher plus de 100 patients dans la région, s'est déroulé avec l'appui de l'organisation caritative internationale Smile Train et Bancroft Global Development, une entreprise basée à Washington. Docteur colonel James Kiyengo, chef d'équipe médicale.
Nous allons également effectuer des chirurgies de la fente palatine et nous formons également des médecins de l'hôpital général de Kismayo à la chirurgie des fentes labiales.
La fente labiale et palatine est une condition qui survient lorsque la lèvre ou la bouche d'un bébé ne se forme pas complètement pendant la grossesse. Il peut s'agir d'une petite ou d'une grande ouverture qui traverse la lèvre jusqu'au nez, rendant l'alimentation et les paroles difficiles. Le traitement nécessite souvent 2 ou 3 opérations et implique divers spécialistes, y compris des thérapeutes, des psychologues, des dentistes et des odontologistes. L'exercice vise également à résoudre certains des problèmes rencontrés par les malades.
Quand nous réparons une fente, nous résolvons le problème pour la famille de l'enfant. Il peut trouver du travail pour soutenir sa famille.
Grâce à Dieu, son opération a été un succès et j'espère que ça ira encore mieux. Il y a un changement remarquable car initialement cet endroit était ouvert mais il a été corrigé. Je m'attends à beaucoup plus d'améliorations mais pour l'instant, il est en bonne santé et ça ira mieux.
La Somalie se reconstruit lentement après des décennies de conflits, mais jusqu'à présent, très peu de ressources ont été consacrées à l'amélioration de la santé publique, de l'éducation ou des infrastructures. En formant les médecins locaux à ce camp médical, l'AMISOM entend apporter sa pierre à cet aspect de la reconstruction du pays. L'AMISOM s'est déployée en Somalie en 2007 pour aider à rétablir l'ordre et à vaincre le groupe militant islamiste Al-Shabaab. On pense qu'il a poussé Al-Shabaab hors de nombreuses villes du centre-sud de la Somalie, renforçant ainsi l'emprise du gouvernement fédéral somalien.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Sims Loumami, à la présentation Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.